Il est en studio, mesdames et messieurs. 15h04, vous êtes dans le retour de Boulevard 102. Je m'appelle Audrey Pinchon, en passant Véronique Bergeron qui est autour de la table, Antonine Yacarini également. C'est l'équipe en place pour cette semaine. Et c'est Sam Tremblay-Michaud qui se joint à la discussion. Je vous ai dit qu'on ne perdait pas nos bonnes habitudes dans le retour. Ben voilà, Sam est chroniqueur automobile chez RPM, entre autres. J'ai envie de dire à son compte aussi, parce qu'il y a quand même une page Facebook. Là.
Oui, oui.
C'est sérieux.
Mais c'est principalement RPM quand même.
Hein, maintenant, oui, on va dire les vraies affaires. Là. Ça a commencé sur Facebook et maintenant, il est journaliste automobile.
Voilà.
C'est du sérieux. On a un beau tour quand même, Sam, d'actualité automobile à faire. Puis j'avais envie qu'on commence par ce qui retient notre attention tout court aujourd'hui dans l'actualité, c'est-à-dire le champion du Wheelie sur Laurentienne, la conduite dangereuse. Je voyais passer encore aujourd'hui, tu sais, les bilans routiers, c'est sorti à mi-juin, me semble, pour l'année dernière. Là, on a les deux semaines de la construction qui s'en viennent. L'année passée, 35 personnes tuées sur les routes pendant ces semaines-là.
Donc, on a dans les semaines considérées comme étant les plus meurtrières, tu sais, à partir de la Saint-Jean jusqu'à justement la fin des vacances de la construction. Là.
Qu'est-ce qu'on comprend pas?
Je sais pas si c'est ce qu'on comprend pas ou ce qu'on n'a plus le droit de faire non plus sur la route. Hein, tu sais, y a eu des changements avec les pistes de course. Moi, je pense à ça en premier lieu. Moi, je pense beaucoup aux pistes d'accélération, aux pistes de course.
Qui permettaient aux gens qui aiment ça d'aller se défouler.
Oui, c'est pas parfait. Tu sais, justement, il y a eu un incident là, sur la piste de Sanner, pas plus tard que quelques jours, là, exactement. Ouais. Quelqu'un qui a décédé sur une piste d'accélération, là, lors d'une épreuve d'accélération, le véhicule un bris mécanique, du moins on semble voir ça sur la vidéo, capoté, il y a quelqu'un qui est décédé, donc c'est pas drôle non plus, mais j'ai l'impression qu'on a de moins en moins d'endroits où on peut relâcher de la pression un peu, prendre du temps pour s'exciter avec nos machines. T'sais, on achète des véhicules qui sont à l'image de notre personnalité souvent. Il y a des machines qui sont sur le marché qui sont très extrêmes, des machines qui sont faites pour être conduites, qui donnent envie. Là, t'sais, de...
Il y en a qui aiment la performance,
qui aiment la performance. Et puis, t'sais, c'est drôle parce que la semaine dernière, pour la première fois de ma vie avec mon auto personnel sur la piste Tremblant, au Mont-Tremblant. J'ai payé une session de course pendant une journée complète. Mais t'sais, encore là, c'est très niché, c'est très dispendieux, ça coûte
très cher. Il
n'y
a pas de règles quand tu es là-dedans.
Il y a des règles au fond, au contraire, il faut que tu aies un véhicule qui est inspecté, il y a plein de réglementations. Moi, j'étais dans la catégorie des novices, comme c'était la première fois que j'allais faire de la piste là-bas. Donc, il y avait des zones de dépassement préétablies, mais c'est au contraire extrêmement bien encadré. Et je pense que ça, c'est quelque chose que tous les passionnés de voitures, les gens qui ont envie de vivre de vitesse et d'avoir du plaisir, devraient pouvoir faire dans leur vie. Le problème, c'est que c'est pas accessible pour tout le monde. C'est quelque chose qui est encore très niché. On a des pistes un peu autour ici. Je pense à Montmagny, qui donne la possibilité d'aller se promener un peu sur un sentier qui est sécurisé, dans un endroit sécuritaire. Mais j'ai l'impression qu'on a de moins en moins d'endroits pour relâcher de la vapeur, justement.
Est là, mon
c'est
bémol.
Ça qui crée des conduites dangereuses ou des gens qui s'excitent un peu trop sur les routes publiques. C'est pas la bonne place pour le faire.
Je suis d'accord avec toi, mais exactement. Moi, ce qui m'énerve, c'est pense donc à l'autre deux secondes. T'sais, je comprends que toi, tu as du fun, mettons, à 2h du matin, à 200 km/h, là. Mais s'il arrive quelqu'un, tu comprends, pendant que toi, tu passes à rouge aussi... C'est dangereux pour la vie d'autrui. Puis moi, il est là, mon enjeu.
Non, c'est inacceptable. On peut pas se dire qu'il faut qu'on accepte ce genre de comportement-là. T'sais, là, on parlait des statistiques de décès sur la route aussi. Combien d'accidents arrivent à l'été parce que les gens sont simplement distraits aussi. Ouais. Hein, on parle beaucoup de la vitesse. C'est pas toujours la cause principale des accidents. Des gens qui sont trop fatigués au volant, des gens qui sont distraits, les téléphones au volant.
La tempête parfaite.
La tempête parfaite. Les gens aussi qui circulent avec des convois dans lesquels ils ne sont pas à l'aise de piloter. Oui. On voit ça aussi, des gens qui partent en camping avec des remorques en arrière, des affaires de 24 pieds, c'est long, on sait pas trop qu'est-ce qu'on
des
fait.
Des trailers.
Des trailers mal chargés, des poids
mal...
T'as un
jour de déménagement, là.
Mais écoute, j'ai...
des voitures où tu vois rien à l'arrière.
Non, mais 100%.
Parce que, tu sais, au lieu de te payer un toolé, tu vas pacter le plus possible le hatchback de ton véhicule. Puis à ce moment-là, tu vois pas qu'est-ce qu'il y a en arrière de toi. Tu n'es pas en mesure de réagir.
Quand on a un véhicule qui est chargé aussi, de faire le petit coup vite. On est sur une rue passante, on veut tourner à gauche, puis on veut aller sur une autre rue. Là, puis là, ben, c'est une rue où c'est, c'est un boulevard, là, les voitures circulent vite. Puis on se dit, OK, je vais faire un petit coup vite. Mais là, votre véhicule, il est surchargé. Il ne va pas réagir de la même manière. Il ne va pas accélérer de la même manière. On ne va pas avoir les mêmes réflexes non plus lorsqu'on va accélérer. Mais non, mais j'avance donc bien pas présentement. Puis tellement que le coup vite, là, c'est lui qui fait un T-bone, puis c'est ça qui est pas drôle.
C'est hier matin, en traversant vers Lévis, quelqu'un qui a clairement pas l'air habitué d'avoir un trailer avec lui pensait qu'il pouvait changer de voie comme il change de voie quand il y a juste son petit véhicule normal.
C'est ça.
C'est plate, là, mais du moment où tu n'es plus dans le même véhicule que d'habitude, puis ça inclut justement si tu traînes de quoi, tu peux pas prendre de chance. Tu peux pas faire ça dernière minute. Ton angle mort, faut que tu le valides 1000 fois parce que tu vas mettre du monde à risque.
On parle des distractions, mais j'ai l'impression que nous autres aussi, puis notre impatience, là.
Beaucoup.
Tu sais, ça, on le dira jamais assez. Puis je sais pas si c'est vraiment en augmentation ou c'est qu'on en parle plus ou si ça a toujours été de même, mais maudit que le monde est impatient.
Ben oui.
C'est capoté. Puis on dirait qu'il y a des messages qui se passent par les mots dangereux, ces routes. Je vais te couper, je vais te coller dans le derrière, je vais te freiner dans la face si t'es trop proche de moi.
Tu vas apprendre.
Oui, c'est ça, tu vas apprendre à prendre quoi?
Pas plus tard que tantôt sur Capital, je voyais une voiture qui s'est tassée en mettant son clignotant, mais c'était serré un peu, mettons. C'était se déplacer dans la voie de droite de manière un peu à couper l'autre personne à l'arrière. Mais c'était pas dangereux, là, c'était juste un peu... raide comme manœuvre, je vais dire ça de même.
Parce que le clignotant, tu peux le mettre en avant, c'est donner une intention.
C'est ça.
Ils sont pas en même temps, là.
J'avais déjà écrit un article là-dessus pour dire que ce n'est pas un droit de passage obligatoire, le clignotant, c'est juste un avertisseur. Mais bref, la personne avait quand même fait un effort pour essayer de dire « OK, je me suis trompé dans ma sortie, je vais tourner rapidement. » L'autre personne en arrière a pogné les nerfs, les hautes allumées, le klaxon, on accélère.
Les masses en l'air.
On se colle au pare-choc à l'arrière, on se mène à l'accotement quasiment. Puis là, la personne, les deux bras dingues dans son véhicule. Puis là, parce que moi, j'étais à côté de ça, là. T'sais, moi, je même pas un pied dans cette patente-là, puis je suis nerveux. Là,
ah, mais c'est
ça! Ça klaxonne, ça capote, là, il va-tu quelqu'un qui va se rentrer dedans?
Ça entraîne des réactions chez les autres aussi.
Il y a beaucoup de facteurs dans ça. Puis, tu sais, je pense qu'il faut, il faut juste se rappeler une chose, c'est que vous soyez passionné de la vitesse, vous soyez passionné de camping, vous soyez passionné d'aller faire des road trips avec votre famille. On a une route, on a un chemin public. Il y a des lois qui l'encadrent. Je suis le premier à vouloir m'amuser avec mon véhicule puis aller avoir du fun, mais il faut que je me paye des sorties sur la piste parce que c'est pas possible de le faire sur la route publique. Puis c'est de même que ça marche. Puis je pense qu'il faut qu'on comprenne le fameux partage de la route, c'est ça pareil. Mm-hmm. Ça fait partie de la game. C'est plate des fois. Je suis le premier à dire, semble que ça serait le fun de pouvoir rouler plus vite. J'aimerais ça monter la limite de vitesse.
Je rêve que ces autoroutes ce soit à 120, mais tu puisses pas à la 121. 121, t'as une contravention.
C'est ça,
mais tu sais, soyez clair sur les limites de vitesse.
Mais c'est un privilège pouvoir conduire.
Oui, 100%.
Il n'y a rien de mieux que d'arriver à destination paisible, bien, pas se sentir mal, pas sentir qu'on a fait des actions qui n'étaient pas correctes sur la route. Tu sais, qu'on arrive quelque part puis on s'en zen, là, mais ça vaut bien plus la peine que de rouler une vitesse de malade ou de faire des comportements dangereux.
Définitivement. Sam, avant qu'on passe aux autres sujets, je m'en doutais, il y a toujours des questions quand tu passes en studio.
Bien sûr.
Que les gens se les notent puis attendent que tu t'en viennes nous voir. Question pour M. Tremblay-Michaud. J'ai une Mazda 3 hatchback 2025, modèle de base. C'est-tu normal que ça boit du gaz comme un vaisseau spatial qui combat la gravité pour décoller?
C'est quand même un véhicule réputé pour consommer. Je ne sais pas s'il est quatre roues motrices ou non. Si c'est un de bord, j'imagine qu'il est traction, donc non, il ne l'est pas. Transmission automatique, hein, qui commence à dater aussi 6 vitesses en 2026, ce n'est pas beaucoup. Puis le 2.5 a un bon couple de moteurs, mais ça boit vraiment plus que ses concurrents. Si on regarde une Toyota Corolla, Hyundai, Elantra, ces choses-là, ça, c'est des véhicules qui sont très économiques à la pompe. Mais un Mazda 3, ça boit plus, effectivement. Si vous êtes à 12 litres au 100 et vous faites que de la ville, j'irais peut-être voir votre concessionnaire, mais si vous êtes autour de 9-10 litres au 100, ça peut faire malheureusement du sens pour un véhicule comme ça, qui date maintenant. C'est ça son problème.
Là, l'autre question, il va falloir que tu me décortiques ça puis tu nous expliques ça pour la majorité des gens, là, parce qu'honnêtement, j'y vais, je me lance, OK? Est-ce que les ingénieurs de Kia et Hyundai ont réussi à enfin isoler à 100% le problème du ICCU qui pop sur la plateforme EGMF en architecture?
EGMP, oui.
Ça, 800 volts.
Oui, mais et puis...
Quand je l'ai vu apparaître dans la boîte, je suis très contente que ce soit toi qui te sois risqué à la poser.
Mais je veux juste dire que la question est très bien posé, hein. Il n'y a pas de faute là-dedans. C'est
en
bien,
français, mettons.
C'est,
là.
Ben, dans le fond, c'est pas compliqué. Puis on en a déjà parlé ensemble aussi. La fameuse plateforme des véhicules électriques chez Hyundai à 800 volts, une plateforme qui est très performante dans sa recharge, dans son autonomie. Les véhicules comme la Hyundai Ioniq 5, Hyundai Ioniq 9, on a le Kia EV9, Kia EV6. On a des véhicules qui sont bien populaires au Québec qui sont sur cette plateforme-là. Et on a un problème avec le système de ICCU. C'est un système qui est un peu le cerveau de recharge du véhicule, si vous voulez. C'est lui qui décide de dire, lorsqu'on connecte le véhicule avec une borne de recharge, où l'énergie va aller. Est-ce que je recharge la grosse batterie qui s'occupe de donner de l'autonomie, donc la batterie d'autonomie, ou la batterie 12 volts qui, elle, qui s'occupe des accessoires dans le véhicule,
charger
comme les écrans, ces choses-là. Et là, ben, il y a un malfonctionnement qui se fait avec cette pièce-là qui crée des problèmes où on ne recharge plus jamais la batterie 12 volts et le véhicule ne peut pas fonctionner sans cette batterie-là. Donc là, il va y avoir des codes d'erreur, on demande d'immobiliser le véhicule. Ça a été un problème connu maintenant, puis même nous, chez RPM, on a décidé de remettre ces véhicules-là en évaluation le temps que Hyundai et Kia trouvent des solutions. Donc pour répondre à la question, c'est est-ce qu'on a maintenant une solution? Ce que je peux vous donner comme nouvelle, c'est qu'on a changé le numéro de la pièce. Ça reste le même type de ICCU. J'ai l'impression que Hyundai et Kia travaillent avec un autre fournisseur de pièces. Est-ce que cette nouvelle pièce-là règle tous les problèmes? à voir et à suivre.
C'est comme les commissions scolaires, ça, là, un changement de nom qui ne donne pas grand-chose.
Ben non, mais c'est sûr que je ne sais pas encore. Ça, okay. Ça sera à valider. Chose certaine, c'est que les constructeurs, dont Hyundai surtout, c'est engagé à réparer pendant de nombreuses années, voire jusqu'à 10 ans, les pièces sur votre véhicule. Bon. Donc, on a extensionné les garanties sur cette pièce-là. Si vous êtes propriétaire actuellement d'un véhicule Hyundai ou Kia sur une architecture à 800 volts, vous allez avoir du service, là. On va s'occuper de vous pour la réparation de votre produit. Et j'imagine qu'on est à la recherche d'une solution durable. Malheureusement, on ne semble pas encore l'avoir. Là, j'entends moins parler du problème parce que ça arrive toujours dans les périodes de froid. Mm-hmm. Quand l'hiver commence à arriver, c'est là qu'on entend les propriétaires dire « Hey, mon ICCU est brisé. » Je connais des gens qui en ont changé 2, 3, 4 fois dans leur véhicule la même pièce. Oui, oui, c'est comment cette problématique.
Je termine avec une autre question d'auditeur, simplement parce que ça va nous mener vers le prochain sujet. Il y a un article sur le rpmweb.ca que je trouve super intéressant concernant les véhicules d'occasion. Vous avez fait un article sur les trucs pour ne pas acheter le trouble des autres, ouais. Ce que je trouve très intéressant. Ouais. Et la question, dans l'usager 2020 environ, quelle voiture tu me conseilles pour faire du Uber, taxi, Uber Eats et compagnie? Là?
Moi, j'irais dans une voiture compacte. Je sais que la réponse qu'on aime entendre, c'est souvent les petits VUS ou ces choses-là. Allez-y pour une voiture compacte. Autour de 2020, on avait des très bons produits. Je pense à une Honda Civic. Mm. Une Honda Civic avec un moteur 2 litres, là, c'est un moulin à coudre, cette affaire-là. Ouais. Ça meurt pas. T'sais, c'est des voitures qui sont très durables. Vous allez avoir longtemps. Allez pas chercher des mécaniques trop complexes. Si je prends encore Honda, un exemple, il y avait un moteur 1,5 litres turbo, un peu plus performant, mais vous n'avez pas besoin de ça pour faire du Uber ou des choses comme ça. C'est une berline, donc beaucoup d'espace de coffre. Vous avez des valises à transporter ou des choses. C'est pratique d'avoir un véhicule qui est polyvalent aussi. Toyota Corolla, Hyundai Elantra, c'est des produits comme ça qui ne sont pas très dispendieux. Si vous en voulez un encore moins cher, la Kia Forte pourrait être une option intéressante. Un véhicule qui n'a peut-être pas le pedigree de fiabilité des modèles que je viens de vous nommer, mais qui reste quand même un produit facile à entretenir, pas coûteux à rouler et qui peut donner une bonne durabilité également.
Fait que dans les véhicules d'occasion, les trucs que vous avez sortis sur rpmweb.ca pour pas acheter le trouble des autres, je trouve ça super intéressant parce qu'il y a encore des gens qui cherchent à aller dans l'usager.
Il y a beaucoup de gens. T'sais, ça coûte cher, hein, une voiture aujourd'hui.
Oui.
On regarde
c'est ridicule la différence de prix sur l'espace de quoi? 5 ans à peu près?
Oui, oui, c'est incroyable. L'augmentation est fulgurante. On a même eu des hausses jusqu'à 63 % des prix dans certaines catégories de véhicules. On a vu...
On va-tu revenir sur Terre à un moment donné?
Moi, je crois pas qu'il y a de retour en arrière massif qui va se faire. Mm. Je pense qu'il y a des modèles plus économiques qui pourraient revenir. On pourrait relancer des noms. On pourrait revenir avec des modèles de véhicules, mais je pense pas qu'on va descendre la moyenne tant que ça.
Parce que la hausse de prix avait fait qu'il y avait eu un ralentissement des ventes de véhicules automobiles. Là, on a connu une mini hausse dans le dernier trimestre, mais ça faisait longtemps que c'était pas arrivé.
Oui, oui. Puis tu sais, je pense pas qu'on s'en va dans des années où les marchés automobiles vont être explosifs en termes de chiffre de vente. Là, je pense qu'on va être plus conservateur. Et on voit d'ailleurs par l'âge du parc automobile, hein, au Québec et au Canada, les gens conservent plus longtemps leurs véhicules, ce qui fait en sorte que les voitures en général sur le circuit sont plus âgées. Et ça prouve un peu le point que les gens conservent et ou achètent dans l'occasion. Il y a beaucoup de trucs intéressants, puis je vais vous en nommer 3 qui, selon moi, peuvent vraiment vous éviter bien gros des problèmes. Okay? Le premier, puis je vais mettre quelques catégories ensemble, mais c'est de faire des bonnes vérifications au préalable. Pour faire ça, vous êtes capable d'aller voir aussi le pedigree de votre vendeur. Si vous achetez dans un concessionnaire de véhicules d'occasion, l'OPC, l'Office de la protection du consommateur, offre un outil gratuit qui s'appelle le profil du commerçant. Et avec ça, vous pouvez écrire l'adresse du commerçant, le nom du commerçant et compagnie, et on va vous sortir si jamais il y avait des mises en garde ou des éléments un peu spéciaux, je veux dire ça de même, autour du commerçant avec qui vous voulez acheter un véhicule. Donc ça peut déjà vous donner peut-être une idée. Est-ce que c'est un commerçant qui a déjà eu des litiges? Est-ce que c'est un commerçant qui a eu des problèmes?
Je savais même pas qu'on pouvait faire ça.
C'est facile, c'est gratuit en plus. Ça prend 2 secondes de faire ça. Ça peut juste vous donner un peu un pedigree sur est-ce que la personne à qui je vais m'acheter un véhicule est de confiance et je pars avec une bonne relation. Autre chose qu'on peut vérifier, ça c'est très facile, c'est d'aller mettre un 15$ sur la plateforme SACLIC pour aller voir justement l'historique de votre véhicule. Parce qu'on peut aller voir le Carfax d'un véhicule. Le Carfax, c'est le fameux document qui vous dit est-ce qu'il y a des accidents répertoriés sur mon auto? Est-ce qu'il y a des problèmes qu'il y a déjà eu sur le véhicule? C'est pratique le Carfax, mais il faut savoir que ce n'est pas l'ensemble des assureurs qui utilisent cette plateforme-là. Donc, il y a certains assureurs comme Bel Air Direct ou Intact.
So anglophone,
hein? Mais c'est ça. Mais Intact et Bel Air Direct sont deux assureurs qui ne vont pas mettre les données sur Carfax. Donc, tu sais, il y a beaucoup de véhicules sur la route qui sont assurés par ces assureurs-là et on n'aura pas nécessairement la donnée lorsqu'on utilise un Carfax. Donc, aller plus loin que ça sur SACLIC, c'est possible de le faire. Vous allez avoir le kilométrage, le nombre de propriétaires. Est-ce que c'est un véhicule qui a été échangé par 40 différents propriétaires à gauche puis à droite? Ou est-ce qu'il a été mis en circulation? C'est-tu un produit qui a été importé d'une autre province? C'est-tu un produit qui a été
vendu
ici?
Mais c'est quelque chose qui compte, Sam, si, mettons, on l'achète d'occasion dans un concessionnaire? Parce que dans ma tête, je me dis tout le temps, voyons, s'ils rentrent dans un concessionnaire, ils sont pas censés l'avoir chopé?
Non, faites-les. Oui. Mettez les 15 $. Vraiment. Non, ça vaut vraiment la peine. Puis vous êtes mieux de trouver une relation avec votre véhicule qui est la plus simple possible. On veut pas des relations de couple compliquées.
Ouais.
Là. On veut pas une relation avec notre véhicule qui est compliquée non plus. Donc, si son historique, c'est il a changé de main 50 fois, il arrive de l'Ontario, on sait pas trop ce qui s'est passé entre 2020 puis 2019. Puis là, maintenant, la couleur a peut-être changé. Là, demain, t'es pas clair. Passez dans d'autres choses.
Il y a le cœur brisé. C'est pas simple.
Désolé, mais c'est un véhicule qui a pas eu une belle vie. Autre chose à faire attention aussi, puis j'ai envie vraiment de mettre de l'enfance là-dessus, c'est essayez-le. Beaucoup de gens regardent des voitures en ligne parce qu'on trouve une bonne affaire dans une autre région au Québec. Puis là, on dit « Hey, je vais mettre un dépôt pour réserver le véhicule. » Puis là, d'ailleurs, les dépôts sont remboursables. Sachez-le, si jamais on fait des menaces avec ça, vous m'appelez. Mais vous êtes vraiment jamais censé payer un dépôt si vous n'achetez pas un véhicule. Donc ça, c'est remboursable à 100%. Mais si vous essayez pas le véhicule, vous n'allez pas savoir s'il va bien, vous n'allez pas savoir si vous l'aimez, vous n'allez pas savoir s'il n'y a pas un bruit louche que vous entendez, vous n'allez pas être capable de...
L'air climatisé marche-tu?
Mais tu sais, ouais. C'est important de tester la marchandise et ça vaut vraiment la peine de le faire. Et je pense que mon dernier truc qui est le plus simple et le plus efficace, c'est l'inspection. Faites une inspection sur votre voiture, s'il vous plaît, faites-le. Même si c'est dans un garage d'occasion, vous pouvez le demander de faire une autre inspection. Si le garage veut vraiment rien savoir, là, nous on veut rien, on veut pas savoir, nanana, peut-être que c'est pas le bon véhicule pour
ça
vous.
En dit long, hein?
Un particulier qui vous sort le même genre de choses. « Ah non, moi, je ne le fais pas inspecter. J'ai plein de monde qui veulent l'acheter. » Bien, parfait. Ça sera quelqu'un d'autre qui l'achètera parce que vous devez faire inspecter un véhicule. Vous pouvez tellement découvrir des choses intéressantes lors d'une inspection qui pourrait vous faire sauver des milliers de dollars. C'est la même chose pour un véhicule électrique. Ça s'achète aussi dans l'occasion. On peut les faire inspecter. On peut aller voir l'état de la batterie, savoir si la batterie est encore en bonne condition.
Pour les faire inspecter.
Il y a plein de garages qui se spécialisent là-dedans. Il y a des compagnies, je ne veux pas nommer nécessairement, là, mais des bannières de garages connus vont pouvoir le faire sans problème. Si vous êtes, vous voulez vraiment avoir la grande paix, allez donc au concessionnaire du modèle que vous achetez. Les autres sont spécialisés dans votre véhicule.
J'avoue, hein?
Pourquoi pas? Prenez un rendez-vous, allez voir là, ils les connaissent par cœur. Fait qu'ils vont pouvoir faire les tests nécessaires pour s'assurer qu'il est correct. Puis comme ça, mais vous allez vous éviter bien des problèmes.
Il y a deux petites questions d'auditeurs que je veux te poser tant qu'à t'avoir avec nous. Avec la roulotte et mon RAM 1500, avec le EMI,
ouais.
Je tourne à 35 litres 100 km/h. Est-ce qu'un Toyota avec le V6 turbo serait plus économique?
Seigneur Dieu!
C'est précis quand même,
non, mais c'est quoi que vous remarquez? Seigneur, 35 litres! Il y a bien soif, ce V8-là! Non, je trouve ça aberrant comme consommation. Là. 38 litres, c'est gigantesque.
35 litres au 5 km.
C'est gigantesque. Okay. Oh, ouais. C'est vraiment beaucoup de gaz. Moi, je pense que le Tundra, le problème actuellement qu'on a, c'est qu'il y a encore des rappels sur les V6 biturbo. Je peux pas vous envoyer là. J'ai pas envie de vous envoyer là parce que justement, on a connu encore des rappels, mais je sais pertinemment qu'un EcoBoost, un 3.5 chez Ford, va consommer pas mal moins que 35 litres au 100. Là. Si vous allez chercher un V6 3.5, vous allez avoir beaucoup plus de run, ça va avoir beaucoup plus de coupe, bien plus agréable à conduire sur la route, puis en plus, ça va moins boire.
Ton conseil pour Marianne, j'ai une question. Moi, je veux m'acheter une auto neuve, modèle traction intégrale, si possible, je fais énormément de route pour le travail.
Ah, ben là, écoute, ça, c'est le fun. J'aime ça, ces questions-là, parce que ça me donne beaucoup de choix. Mais ça dépend des budgets. Mais là, si, mettons, j'essaie d'être réaliste, je pense à des modèles connus comme un Subaru Crosstrek, par exemple. Petite voiture qui est un petit peu plus surélevée. On est confortable, on a un sentiment de sécurité,
une bonne
visibilité, un bilan de fiabilité qui s'est prouvé. Pas les plus économes en carburant, mais quand même avec le rouage intégral sécuritaire en hiver. Donc, si vous faites beaucoup de routes, c'est un format qui plaît. Moi, je l'appelle Capitaine Québec, la Subaru Crosstrek.
Ah, j'avoue. Hein.
C'est un véhicule taillé sur mesure pour les gens.
Moi, j'avais adoré la mienne.
C'est un produit qui est intéressant. Puis je penserais peut-être aussi, ça vous tente de jeter un œil à d'autres options. Dans cette catégorie-là, il y a les Hyundai Kona Seltos de ce monde. Mm. Deux produits intéressants, un peu énergivores également, qui ont un bon bilan de fiabilité et de garantie aussi.
Sam, avant de te laisser partir, je trouve ça intéressant parce que des fois, vous faites des espèces de dossiers, je vais dire, questions qu'on connaisse nos droits.
Oui.
Comme automobiliste, quand on achète un véhicule, quand on retourne un véhicule, les frais excessifs quand tu retournes un char de location. On dirait que tu le sais pas, ce qui est correct puis qui est pas correct. On dirait que t'oses pas t'ostiner, là, t'as payé plein de garanties puis de bébelles
c'est
pendant
vrai,
toute
la garantie
ta
d'esthétique.
Ah, ouais,
puis
ouais.
Le ci, puis le
ci. Puis là, finalement, la garantie d'esthétique, là, elle donne pas grand-chose.
Ça, il va pas bien. Comme si tu racontais un cauchemar.
Je vais perdre connaissance.
Et là, moi, je suis en location pour la première fois depuis un bon moment, là. Puis c'est quand même quelque chose à quoi j'ai pensé quand j'ai décidé de reprendre un contrat de location. Fait que c'est quoi nos droits à ce niveau-là? On la met où, notre limite?
Puis je vais donner tous les mérites de cet article-là sur le rpmweb.ca à David Vachon-Rose. Rosebery, qui est un avocat qui est un passionné de voitures, qui travaille avec nous. Donc, il nous fait des articles spécialisés juridiques sur le site web. Et je tiens à le dire parce que c'est vraiment lui qui a la crédibilité aussi de donner l'information que je vous donne à l'instant. Mais ce que je peux vous dire, c'est que la récente loi 29 qui a été adoptée en 2023, qui est la fameuse loi anti-citron, est venue bonifier les droits des locataires de véhicules lorsqu'on remet une voiture de location. Une des premières choses à savoir, c'est qu'avant la fin du contrat de location, entre le 30e et le 60e jour avant de remettre le véhicule, la compagnie avec qui vous louez le véhicule, donc le concessionnaire, doit vous offrir une inspection gratuite de votre véhicule pour vous donner le bilan de santé de votre véhicule. Et ça, c'est écrit dans la loi, là. Ils n'ont pas le choix de faire ça. Donc, on est censé de faire l'inspection pour aller voir qu'est-ce qui est l'usure normale ou qu'est-ce qui est de l'usure anormale d'un véhicule. Donc là, après ça, on va vous donner un rapport. Et dans ce rapport-là, vous avez 10 jours pour régler les enjeux potentiels de la manière dont vous le désirez. Donc, vous n'êtes pas obligé de passer directement par le service du concessionnaire. Si vous avez des gens compétents autour de vous qui peuvent faire la réparation, vous connaissez un bon garage de confiance, vous pouvez faire les réparations nécessaires à de l'usure anormale. Il faut savoir que si cette inspection-là n'est pas faite, et que le concessionnaire ne vous la donne pas, on ne peut pas vous réclamer aucune somme pour de l'usure anormale sur votre véhicule. Donc, à la base, ça, c'est quelque chose qui est très important à savoir.
Fait que si tu ne reçois pas l'appel dans les 30 à 60 jours avant de remettre ton char,
Mme Pinchot, votre voiture, il y a telle affaire. C'est bien de valeur, mais je n'ai pas eu le droit à mon inspection que je devais avoir, moi, là. Fait que je ne le savais pas. Là.
Ah, c'est bon, ça.
Terminado finito. On vient de régler le problème assez rapidement. Donc, ça, c'est une affaire à savoir. Ça prend un rapport d'inspection aussi, absolument. Ça prend aussi un avis de lorsque vous faites les réparations, comme quoi les réparations ont été faites, on ne va pas pouvoir revenir contre vous sur cette usure anormale-là, celle qui a été spécifiée dans le rapport d'inspection. Donc, ça vous protège également pour des choses comme ça. Il faut savoir aussi que pour évaluer une usure anormale, ça commence à être complexe à juger. C'est dur de dire qu'est-ce qui est de l'usure anormale, qu'est-ce qui est de l'usure normale sur un véhicule. Si vous avez loué votre voiture sur 5 ans, vous arrivez, il y a des petits picots à gauche puis à droite sur la carrosserie, c'est de l'usure normale.
C'est un char de 5 ans.
Un véhicule équivalent de la même marque à vendre sur Marketplace va avoir probablement le même genre d'enjeu esthétique. Donc ça, c'est de l'usure normale. Et là, c'est là que ça devient un peu le jeu du chat et la souris, où là, qui a raison, qui a pas raison. Sachez une chose, c'est que dès que vous êtes capable de prouver que l'usure de votre voiture, elle est normale, qu'elle n'est pas excessive, il n'y a aucune raison pour laquelle on devrait vous charger des frais supplémentaires. Et vous pouvez juger vous-même, en tant que locataire, de dire « Moi, je ne paye pas pour ça parce que ce n'est pas de l'usure anormale. » Vous remettez le véhicule et c'est au concessionnaire de vous poursuivre pour essayer de faire prouver devant un juge qu'il y a effectivement de l'usure anormale sur votre véhicule.
Il y a des bonnes chances qu'il laisse faire.
Il y a des énormes chances que ça n'arrive pas. Donc, dites-vous que c'est une
question... On sent souvent qu'on n'a pas le gros bout du bâton, non, fait qu'on n'ose pas. Hein?
Puis là, je vous parle de tous ces droits-là. Il faut savoir une chose aussi. Les concessionnaires ont tout à faire et les compagnies ont tout à faire pour essayer de vous garder comme client. Dans le sens, c'est bien plus payant pour eux de vous garder en tant que consommateur dans le même concessionnaire. Donc, généralement, lorsqu'on loue un véhicule avec une marque qu'on apprécie et qu'on a un autre modèle qu'on convoite dans l'alignement, il n'y a généralement pas de problème de remettre une voiture de location et de repartir en neuf avec un autre véhicule.
Moi, c'est ce que je fais. En passant, je loue un véhicule, puis quand on arrive vers la fin ou que c'est le moment où est-ce qu'ils nous appellent pour savoir si on veut changer de véhicule, je fais toujours un peu semblant que je ne suis pas certaine encore. Puis que...
C'est ça.
Puis là, tout à coup, là, les petites pocs, là, puis les petites affaires, là,
ça compte plus.
C'est pas
hein?
grave.
C'est pas grave. Grave. C'est l'enfer.
C'est pas grave, finalement, vous allez repartir en voiture neuve.
Exact. Ouais,
c'est ça.
voilà. Fait que c'est pour ça que je vous dis, c'est une relation aussi là-dedans. Je pense que quand on est des gens qui n'ont pas surbattu des véhicules, n'ont pas usé de manière anormale un produit, généralement, ça se passe très bien. Donc, enlevez-vous de la pression. Puis les fameuses garanties à gauche puis à droite, touchez pas à ça, s'il vous plaît.
Ah, mon Dieu.
Je sais pas combien de fois je le dis, là, mais.
On pourrait faire une autre chronique complète là-dessus, j'ai l'impression qu'on le sait pas. Hein? Samuel Tremblay-Michaud, chroniqueur automobile, vous pouvez le retrouver sous ce nom. Page Facebook toujours existante?
Toujours existante, un petit peu plus lent, mais sinon, vous pouvez nous écrire aussi sur le rpm.ca, on répond aux questions de tout le monde.
Donc, chroniqueur et journaliste pour RPM, ces textes se retrouvent là aussi. J'ai l'impression que ça peut peut-être répondre à beaucoup de questions que vous avez. Il y en a qui rentrent encore. Je vais vous rediriger. Allez y écrire, là. Il va vous répondre. Il tombe en vacances, il y a le temps.
Je tombe pas en vacances, moi, je tombe en tournage.
C'est vrai, c'est du tournage.
Ben oui, je suis pas en vacances, moi, là.
Hey, moi, je suis en train de dire tantôt que tu t'en allais en vacances, non, c'est tout sauf ça, dans le fond.
Je pars à l'instant pour Charlevoix, ça va tourner RPM.
Ah, mon Dieu, mais va-t'en, vas-y.
C'est tellement beau, belle région.
Magnifique. Profitez-en, Sam, merci, puis on se rejoint cet été. Sam Tremblay-Michaud, vous voulez retrouver la chronique, elle sera sur le blvd.fm. On revient dans les prochaines minutes, dans le retour de Boulevard 102. Le retour.